J'aime la publicité. Et parmi les publicités, il y en a que j'aime particulièrement. Ce sont les publicités pour l'armée. Voici un exemple d'affiche de la Marine nationale qui vous montre tout de suite que la vie d'un marin, c'est excitant. On descend d'un hélicoptère sur un sous-marin nucléaire. Ça, c'est pour les vrais hommes. Ou alors celle-ci, toujours Marine nationale. Cette fois-ci, elle nous montre des démineurs qui nagent dans des flots turquois du Pacifique Sud. On a envie de s'y jeter, n'est-ce pas? Ou encore, n'oublions pas l'armée de terre. L'armée de terre nous montre que si vous combattez dans ses rangs, vous allez rencontrer des créatures de rêve. Et qui non seulement, même en tenue de camouflage, n'oublient pas leur brushing, mais même leur rouge à lèvres glossy. Ça donne envie, n'est-ce pas? Bon, vous le savez tous, je crois, toutes ces publicités sont légèrement trompeuses. Parce que la vie de soldat, ce n'est pas que ça. Ceux parmi vous ici qui ont fait l'armée savent ce que je veux dire. Un soldat moyen passe pas mal de temps à s'ennuyer ou à exécuter des ordres qui paraissent géniaux au quartier général, mais sur le terrain sont moins géniaux. Il se fait commander par des chefaillons parfois incompétents. Et il passe sa nuit non pas avec des créatures de rêve, mais avec sept poilus dans sa chambre qui puent et qui ronflent comme des marteaux-piqueurs. Bref, tout ça est légèrement trompeur. Alors, je ne suis pas de ceux qui assimilent trop facilement l'Église et l'armée. Ce sont quand même deux choses différentes. Mais c'est vrai que les deux ont des choses en commun. Les deux sont des groupes d'hommes et de femmes qui sont envoyés sur un terrain parfois hostile. L'Église veut conquérir le monde. Elle a des ennemis puissants qui lui tirent dessus et elle doit lutter pour sa vie. Et en ce sens-là, on peut peut-être parfois la comparer à une armée. Mais contrairement à l'armée, comme nous la connaissons, elle ne donne pas dans la publicité trompeuse. Son commandant en chef ne fait pas dans ce genre-là. Un certain Jésus de Nazareth. Il tient à ce que tout le monde sache à quoi il s'engage. Mais peut-être dois-je dire un mot ici sur l'Église, parce que vous tous ici, vous n'êtes peut-être pas très familiers de ce monde. En arrivant ici, vous avez peut-être vu dehors des inscriptions très longues, hein, Église évangélique baptiste, membre de la Fédération protestante de France. Tout ça, c'est un peu ronflant. Mais malgré tous ces noms un peu pompeux, en fin de compte, c'est quelque chose d'assez simple, l'Église. C'est ici une toute petite cellule d'un organisme gigantesque qui aujourd'hui atteint quasiment tous les endroits au monde. L'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un homme qui a vécu il y a à peu près 2000 ans. Il a vécu, il est mort. Et l'appréciation de ce personnage varie selon les gens, bien sûr, mais quasiment tout le monde est d'accord pour dire que c'était un type hors norme. Et nous, les chrétiens, nous pensons que non seulement il était un type hors norme, mais nous croyons qu'il était Dieu lui-même venu sur terre pour une mission précise, à savoir régler un de nos problèmes les plus fondamentaux, un problème que vous connaissez tous, le problème de notre méchanceté. Parce que si vous vous connaissez tant soit peu, vous allez de temps en temps sentir cette méchanceté surgir en vous. Il y a quelque chose en nous qui est pourri et qui pourrit aussi notre relation avec Dieu. Et il est venu pour régler ça. Je n'ai pas le temps ici de vous expliquer comment précisément. Il suffit aujourd'hui de dire qu'il a fallu qu'il meure pour régler ce problème, pour nous obtenir la possibilité d'être pardonné de Dieu. Et dès son vivant, il a eu autour de lui un certain nombre d'hommes et de femmes, des disciples Et après sa mort, il est revenu à la vie, il est ressuscité, et il a dit à ses disciples, il leur donnait une mission, à savoir d'aller partout dans le monde apporter cette bonne nouvelle du pardon possible de Dieu et de faire à leur tour des disciples, un peu le principe de la boule de neige. Et c'est ce que nous avons vu dans l'histoire. Et ce petit noyau de disciples est devenu un organisme, comme je vous ai dit, gigantesque, dont cette église ici est une toute petite cellule. Je vous ai dit, l'église est parfois comparée à une armée, mais c'est une armée d'un drôle de genre parce qu'elle est résolument non-violente, à l'image de son fondateur. Et sa seule arme, la seule, c'est la parole de Dieu. Et justement, la parole de Dieu, la Bible, écoutons ce qu'elle nous dit par rapport à la vie de disciple. Jésus n'a jamais fait croire aux gens que la vie de disciple serait quelque chose de simple. Loin s'en faut. Et dans la Bible, vous avez quatre biographies de Jésus. On les appelle les quatre évangiles. Et un de ces évangiles a été écrit par un certain Luc. Et il rapporte une parole très lourde de Jésus. Jésus qui dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, autrement dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. » Alors on pourrait en parler des heures, vous imaginez. Mais ce que vous voyez là tout de suite, c'est que être disciple, ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est un effort. Et un effort de tous les jours. Chaque jour, il prend sa croix. Dans le monde de Jésus, celui qui prenait sa croix, c'était le condamné à mort, qui devait porter sa croix au lieu d'exécution. Et il y a ici, très présent, me semble-t-il, l'idée de mort. Il doit se renier lui-même, il doit prendre sa croix, cet instrument de mort. Et Jésus est allé à la mort, son disciple est appelé à faire de même. Et Dietrich Bonhoeffer, un pasteur luthérien qui est mort dans les geôles nazies pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour sa foi, il a dit ça avec beaucoup de force, me semble-t-il. Il a dit, quand le Christ appelle quelqu'un à le suivre, il l'appelle à venir mourir. Alors, entendons-nous bien, pas nécessairement en martyr, comme Jésus et beaucoup de ses apôtres, mais être disciple implique une mort, et tout au moins une mort à soi-même. C'est une vie qui s'arrête et une nouvelle vie qui commence, une nouvelle naissance. Et du coup, vous comprenez bien que Jésus n'a jamais poussé les gens à le suivre ou les manipuler pour qu'ils le fassent. Et aujourd'hui, à la demande d'Éric, je voudrais aborder avec vous deux textes qui nous montrent quatre petites rencontres entre Jésus et des gens qui soit étaient des disciples ou alors qui envisageaient de l'être. Et c'est très intéressant de voir comment ça se passe. Alors, de nouveau dans l'évangile de Luc, première rencontre. Comme il marchait sur un chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai où que tu ailles. » Et un autre évangile nous dit que cet homme qui se présentait de la sorte, cet enthousiaste, c'était en fait un scribe, c'était un spécialiste de la religion, c'était un théologien. Et moi, si ça m'était arrivé, j'aurais dit « Mais super, hein ? Là, il y a quelqu'un qui est tout feu, toute flamme. Et en plus, il est compétent. » Je dis, super, félicitations, allons-y, on va faire de belles choses ensemble. Mais la réaction de Jésus est tout autre. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel font des nids. Mais le Fils de l'homme, il n'a pas où poser sa tête. Il lui dit en quelque sorte, calmos. Tu es très excité, tu veux me suivre partout, mais regarde bien, regarde-moi, je n'ai rien, je ne sais pas où je vais dormir ce soir, même les bêtes sont mieux logées que moi, et tu veux me suivre partout où je vais, réfléchis bien, Donc ce n'est pas un nom, mais c'est au moins une mise en garde. Deuxième rencontre. Cette fois-ci, c'est Jésus qui prend l'initiative. Il a fait ça parfois. Et il dit à un autre, « Toi, suis-moi. » Celui-ci répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Je ne sais pas ce que vous auriez dit, moi j'aurais dit, « Évidemment, ça va de soi, c'est important, ça fait même partie des 10 commandements, vous imaginez, le respect des parents. Les prêtres en Israël, ils ne pouvaient pas toucher à mort, à une exception près, leurs parents. C'était grave. Hein ? Et donc ce type, il veut juste faire ce que même la religion lui demande. Il dit, « Je te suivrai, mais d'abord, j'aurais dit oui. Fais ça. » Occupe-toi de cet enterrement, et puis après, tu viens nous voir, et puis on règle ça. Jésus, sa réaction est tout autre. Il lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va-t'en annoncer le royaume de Dieu. Celui qui reçoit cet appel de Jésus, vous allez voir tout à l'heure, c'est la vie qui frappe à sa porte. En Jésus, c'est la vie. Et Jésus lui dit, toi, suis-moi. Il lui ouvre la porte pour quelque chose de magnifique. Et l'autre dit, non mais attends, d'abord il faut que j'enterre mon père. Et Jésus lui dit, mais laisse les morts entaler la mort. Toi, tu es en train de renaître spirituellement. Tu es devant moi. Il y a des gens qui ne sont pas dans ces situations. Ils peuvent s'occuper de l'intendance. Occupe-toi de ta soi. Tu as un plus important à faire. Va annoncer le règne de Dieu. C'est quand même assez sérieux, n'est-ce pas? Troisième rencontre, un peu du même type. Cette fois-ci, un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre d'abord congé de ceux de ma maison, de ma famille étendue. » Je ne sais pas ce que vous auriez dit. Moi, j'aurais dit, « Mais bien sûr, va leur faire la bise, et après, tu reviens. » La réaction de Jésus est tout autre. Jésus lui dit, celui qui, ayant posé la main sur la charrue, regarde en arrière, ne convient pas pour le règne de Dieu. Non merci. Si c'est ça, non. C'est dur. C'est dur. Les évangiles nous disent que Jésus, il suffisait de regarder quelqu'un, il savait à qui il avait affaire. Et visiblement ici, il détecte derrière cette requête, apparemment raisonnable, une excuse. Ce type dit « oui mais », et vous le savez bien, « oui mais », ça veut dire « non ». Et de ça, Jésus n'en veut pas. Quelqu'un qui dit « oui mais », je te donne bien cette case-là dans mon agenda, mais d'abord, je dois faire autre chose, il dit « niette ». Moi, je vous veux tout entier ou pas du tout. Enfin, quatrième rencontre, cette fois-ci nous allons dans l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, nous avons une magnifique prédication de Jésus, mais une prédication qui est très, très rude pour ses auditeurs. Parce que Jésus va leur dire, si vous ne croyez pas en moi, vous allez mourir dans votre péché. Et ça, c'est une catastrophe. Et il lui dit, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas de part avec moi. Et ça, les gens ne sont pas prêts à entendre. Et beaucoup de gens l'abandonnent. Même des disciples, des gens qui étaient autour de lui. Beaucoup de disciples s'en allaient, ne marchaient plus avec lui. Alors Jésus dit aux 12, c'est-à-dire au cercle restreint de disciples, ses amis les plus intimes, « Et vous, dit-il, ne voulez-vous pas partir vous aussi ?» Et c'est là Simon Pierre qui prend la parole. Souvent, c'est lui qui agit en porte-parole et il dit, « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous, nous avons cru, nous savons que c'est toi, le Saint de Dieu. » Et avec cette parole, Simon-Pierre résume en une phrase ce que des générations de chrétiens ont expérimenté depuis. Une fois qu'on a connu Jésus, il n'y a pas de retour possible. Parce que c'est quelqu'un d'unique. Parce que c'est quelqu'un qui nous aime et qu'on ne peut qu'aimer en retour. parce qu'il a donné sa vie pour nous, pour vous, et parce qu'il a par là même bouleversé la nôtre, parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Chers amis, si vous n'aimez pas le Christ, c'est que vous ne l'avez jamais connu. Parce que le connaître, c'est l'aimer. Ce n'est pas, vous l'avez bien compris, que la vie avec lui est toujours facile. Oh non, on ne peut pas dire ça. Devenir son disciple, vous l'avez vu, ça demande des sacrifices. Le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Et parfois, il demande à ceux qui veulent le suivre de sortir de leur confort, d'abandonner leur sécurité apparente et de s'engager sur un chemin qui est précaire. Jésus exige leur loyauté absolue. Il n'accepte pas, vous l'avez vu, d'être la priorité numéro 2 ou de se contenter de la case du dimanche matin. Il vous veut entièrement. Avec lui, c'est tout ou rien. Il est comme ça, il s'en est jamais caché. Il nous a dit que être son disciple, c'est accepter de porter sa croix. Mais demander à un de ses disciples s'il regrette d'avoir fait ce choix, et vous aurez une réponse, je pense, similaire à celle de Simon-Pierre. Le quitter ? Mais pourquoi faire? Permettez-moi de vous poser une question. Vous n'avez pas besoin de répondre, mais réfléchissez-y. Qu'est-ce qui vous fait courir dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait courir? Peut-être vous vous êtes jamais vraiment posé la question, parce qu'on vit comme ça. Hein, mais posez-vous la question. Si vous voulez un tuyau, comment savoir? Posez-vous la question de savoir de quoi sont remplis vos rêves et vos cauchemars, vos rêves éveillés. Là, vous verrez, je pense, ce vers quoi votre vie est orientée. Alors, beaucoup de gens vivent pour leur travail, vous le savez. D'autres, pour l'argent, pour accumuler des choses, pour devenir de plus en plus riches, pour avoir. Pour d'autres, c'est le pouvoir qui les intéresse. Tirer les ficelles. Pour d'autres, c'est le plaisir. Profiter de la vie. Pour d'autres, c'est la famille autour de laquelle toute leur vie est construite. Et toutes ces choses, prises isolément, ont une certaine valeur. Il ne faut pas le nier. Mais tout ça, c'est très fragile. Et quand viendra la mort, elle les arrachera à tout ça. La mort vous arrachera à votre famille. Elle vous arrachera à vos possessions. Elle vous enlèvera de vos positions de pouvoir. Elle vous enlèvera de votre travail. Elle met un terme à tout ça. Mais là, voyez-vous, il y a quelqu'un qui a les paroles de la vie éternelle. Et du coup, quitter celui qui a les paroles de la vie éternelle pour se tourner vers des choses qui sont abîmées dans la mort, ça n'a aucun sens. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi Eric a fait le choix qui est le sien, de quitter son travail, sa situation, pour devenir pasteur à plein temps de cette église. En le faisant, il a accepté un certain nombre de contraintes, et je crois certaines, il les sent déjà. Il a abandonné un travail dont il m'a dit qu'il l'aimait. Il a sans doute perdu une partie non négligeable de son salaire. Il a accepté de descendre sur l'échelle sociale. Le cadre informaticien est devenu pasteur d'une petite église obscure, et qui plus est, dans la France d'aujourd'hui, où la laïcité prend un tour, je dirais, de plus en plus agressif, l'avenir ne sera pas toujours évident, je crois. Sans compter le fait que les difficultés peuvent aussi surgir de l'intérieur de l'église. Hein? Et quand un conflit déchire une église, le pasteur est aux premières loges. Je l'ai vu de très près. Alors pourquoi se lancer dans une telle entreprise? Je crois que la réponse se trouve dans l'appel qu'il a reçu de la part de Jésus-Christ. Appel confirmé par l'Église. Et comme toujours, quand le Christ appelle, il appelle à un avenir incertain. Il nous demande de lui faire confiance. Il est exigeant, c'est vrai. Il demande beaucoup, c'est vrai. Il nous amène parfois là où on n'a pas forcément envie d'aller, c'est vrai aussi. Mais tous ceux qui ont choisi cette voie vous le confirmeront, il n'y a aucun regret à avoir parce que ce choix nous permet d'être avec lui, de marcher à sa suite qui nous a appelés, avec celui qui a les paroles de la vie. Et ça, ça vaut plus que tout le reste ensemble. Je voudrais terminer avec les paroles d'un autre disciple de Jésus-Christ, l'apôtre Paul. Et en écrivant à l'église de Philippe, il a écrit la chose suivante. Il parle d'abord des choses qu'il a, son pédigré, son origine, sa formation et tout ça. Et puis il dit, les choses qui étaient pour moi un avantage, j'ai fini par considérer qu'elles étaient une perte à cause du Christ. Bien plus, j'estime que tout est une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon maître. À cause de lui, j'ai accepté de perdre toutes ces choses et je les considère comme des ordures afin de gagner le Christ et être trouvé en lui, non pas avec une justice qui viendrait de mon obéissance à la loi, mais celle qui vient de la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. À cause de lui, j'ai accepté de perdre toutes ces choses et je les considère comme des ordures afin de gagner le Christ et être trouvé en lui. Regret ? Vous plaisantez ? Le quitter pour revenir aux avantages de la vie ancienne ? Pure folie ! Ça serait revenir à ce qui, comparé à l'excellence de la connaissance du Christ, apparaît comme des ordures. Non, pour celui qui a goûté combien le Seigneur est bon, il n'y a pas de retour en arrière. Seigneur, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie éternelle. Thank you.